Ravie d'être avec vous, c'est Phare FM qui vous accompagne. On est ensemble jusqu'à 7h dans la nuit autrement sur la radio autrement. Bienvenue.
Avec Phare FM, redécouvrez Noël.
Texte tiré du livre de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur. Tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens.
Avec Phare FM, redécouvrez Noël en recevant gratuitement un Nouveau Testament. Deuxième partie de la Bible sur pharefm.com/bible.
23h07, la radio Autrement qui vous accompagne. On est le 21 décembre, samedi, et j'espère que vous allez bien. Si vous travaillez, je vous souhaite bon courage. Notre programme se poursuit toujours dans la nuit Autrement, et je vous propose d'écouter Cathy Nicole et When I Fall. C'est tout à l'heure, Hillsong en français, Il n'y a que toi, c'est maintenant, Andrew Womack. Ce sera dans 10 minutes, à tout à l'heure.
5 heures.
La nuit autrement
avec Mireille.
Le monde peut garder chacun de ses trésors. J'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, toi, toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi.
Tu m'as donné toute ton affection alors que je m'étais égaré. Peu importe leur proposition, je ne laisserai plus rien nous séparer. Mon Dieu, mon roi, désormais c'est à toi que j'appartiens. Oui, j'ai déjà fait mon choix. Retourner dans le monde, y a pas moyen.
Présent même dans les jours de malheur. Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. En tout temps dans ma vie tu restes Seigneur. Toi seul peux t'asseoir sur le trône de mon cœur.
Le monde peut garder chacun de ses trésors. Tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes entraîne la concurrence.
Je ne peux m'apitoyer car tu es au rendez-vous. Dans mon cœur tu es scellé, oui c'est vrai je te l'avoue. Dans ma vie tu règnes, me libère de mes frayeurs. Dans tes bras j'ai plus peur. Oh la 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 la. Dans ma vie tu règnes, me libère de mes frayeurs. Seigneur il n'y a que toi.
I'm tired of trying to be okay. I've prayed all the prayers I have to pray. Please don't leave me lonely. My God, catch me when I fall. You catch me when I fall. You catch me when I
Le ministère d'Andrew Umak, en collaboration avec Phare FM, est heureux de vous présenter ses émissions « La vérité de l'Évangile » sur la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, j'entame une toute nouvelle série intitulée « Jésus vous suffit-il ?». Elle sera relativement courte. Cet enseignement est notamment tiré du chapitre 14 de l'Évangile de Jean, qui est l'un de mes passages favoris. Nous y voyons Jésus parler à ses disciples la veille de sa crucifixion. Et dans Jean, au chapitre 14, 15 et 16, nous découvrons l'un des deux endroits dans les Écritures où Jésus prodigue un enseignement direct. L'autre passage est le sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Mais nous lisons ici l'un des plus longs discours de Jésus que nous ayons. Il s'adressait à ses disciples la nuit précédant sa crucifixion. Et à vrai dire, un bon nombre des séries que j'enseigne sont tirées de ce passage. C'est vraiment l'un de mes préférés des Écritures. J'en ai tiré de grandes révélations. Et alors que j'étudiais ces chapitres il y a quelques mois en arrière, je me suis rappelé certaines des choses que le Seigneur m'avait révélées par le passé. Après m'être couché, j'ai rêvé toute la nuit de ces passages des Écritures. Et lorsque je me suis levé le lendemain matin, je me suis assis et en une journée, j'ai rédigé ce petit livret que voici. Il ne fait que 28 pages, il est très court, mais très puissant. Je l'ai écrit en peu de temps et j'aimerais partager avec vous certaines choses dont le Seigneur m'a parlé. Bien sûr, on pourrait davantage se pencher sur chaque révélation, car je vais aborder un certain nombre des choses les plus importantes que Dieu m'a révélées dans un enseignement assez court. Nous allons donc parcourir ensemble ce petit livret. Il est très court, mais très puissant. Comme je le disais au début de l'émission, nous parlons de la nuit qui a précédé la crucifixion de Jésus. Il venait de terminer son dernier repas avec ses disciples. Il venait de leur laver les pieds. Judas s'était retiré pour le trahir auprès du souverain sacrificateur. C'est ici que notre récit commence aujourd'hui, dans Jean chapitre 14, au verset 1, où Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ce verset à lui seul contient énormément de richesses. D'ailleurs, j'ai toute une série intitulée « Maîtrisez vos émotions » qui a été inspirée par ce verset. La nuit avant que Jésus ne soit crucifié, il a donné un commandement. Il ne s'agit pas d'une demande ou d'une suggestion. Il n'est pas en train de leur dire « Les amis, essayez de faire cela. Je sais que vous n'êtes que des êtres humains. Il se peut que cela ne fonctionne pas, mais faites de votre mieux. » Non, il a clairement dit que votre cœur ne se trouble pas, alors qu'ils s'apprêtaient à vivre l'un des pires moments de leur vie. Ils allaient être témoins de l'arrestation de leur maître, sur lequel tous leurs espoirs et leurs rêves étaient fondés. Et à ce moment-là, ils ne comprenaient pas le plan du salut dans son ensemble. Ils allaient le voir se faire arrêter, condamné à être crucifié. Ils allaient le voir mourir et être enterré. Et à notre époque, la plupart des gens diraient qu'il serait totalement injuste de dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble pas lorsqu'il passe par une telle épreuve. Si cela ne vous dérange pas, si vous n'êtes pas effondré, si vous n'avez pas le cœur brisé, alors vous avez un sérieux problème. Vous êtes dans le déni. C'est la manière dont le monde aborde les tragédies aujourd'hui. Si vous dites aux gens que nous sommes victorieux, que Dieu désire nous faire toujours triompher en Christ, comme le disent les Écritures. Lorsque vous osez parler ainsi, il y a une grande partie du corps de Christ qui dira que vous rabaissez les personnes qui ont des problèmes, que vous n'avez pas de compassion. Ils pensent que vous devriez plutôt vous mettre à leur niveau et dire « Nous savons que vous souffrez et nous ressentons votre douleur, etc. » Il y a bien sûr un temps pour faire preuve d'amour et de compassion, mais la pitié favorise l'échec. Il me semble que pour manifester une véritable compassion, il faut parfois faire preuve d'un amour ferme. Il faut pouvoir dire à une personne de se relever et de réessayer, qu'elle peut y arriver. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Église en est arrivée à faire preuve de pitié et d'empathie mal placée envers les gens. Elle ne leur donne pas les moyens de réagir. Jésus a dit à ses disciples, la veille de sa crucifixion, que votre cœur ne se trouble pas. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens diraient que ce n'est pas de la compassion, que cela ne fait preuve d'aucune empathie pour les gens. Ils étaient sur le point de voir Jésus crucifié. Ils allaient voir tous leurs rêves anéantis. Pourtant, Jésus leur a dit de ne pas laisser leur cœur se troubler. Cela peut ne pas paraître raisonnable. Est-ce que vous réalisez qu'à l'heure actuelle, de nombreux chrétiens ainsi qu'un grand nombre de pasteurs disent aux gens d'agir différemment que ne l'a fait Jésus? La nuit précédant le pire moment de leur vie, le moment le plus grave de l'histoire de l'humanité, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous sortons tout juste de ce temps de crise dû au coronavirus, et de nombreux chrétiens pensent que nous avons du souci à nous faire, que nous devrions être inquiets. Des gens perdent leur travail, d'autres meurent. Ils considèrent tous ces événements, et dans un sens, ils donnent un pouvoir à ces choses en disant « C'est vrai, Dieu nous a dit de ne pas laisser nos cœurs se troubler, mais il y a des limites. Si vous êtes confronté à la mort, si vous êtes licencié, s'il se passe toutes ces choses, vous avez des raisons de vous effondrer comme un château de cartes. C'est la façon dont bon nombre de chrétiens réagissent face à de telles situations. Mais comment Jésus a-t-il réagi? La veille de sa crucifixion, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Et comment peuvent-ils ne pas laisser leur cœur se troubler? En croyant en Dieu et en croyant aussi en Jésus. La foi est la réponse. Si vous avez foi en Dieu, vous n'avez pas à avoir peur. Dans les psaumes, David dit que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Nous pouvons placer notre confiance en l'Éternel, nous réjouir en lui et être dans l'allégresse à cause du Dieu de notre salut. Aucun d'entre nous n'a encore vu toutes les montagnes être ébranlées au cœur des mers. Et jusqu'à ce que cela arrive, tout comme David, nous devrions louer Dieu et nous devrions proclamer « Loué soit l'Éternel, je sais que je suis vainqueur. J'expérimente la victoire dans cette vie et si pour quelque raison que ce soit ma foi n'a pas pu s'approprier la guérison, la prospérité ou quoi que ce soit d'autre, le pire qui puisse m'arriver est de mourir et d'aller rejoindre Jésus. Je vivrai pour toujours à ses côtés dans une ville dont les rues sont pavées d'or. Comprenez qu'il n'y aura plus de deuil, de cris ou de douleur. Il n'y aura plus aucun souci à se faire. Vous ne vous souviendrez pas des difficultés de ce monde. Les choses anciennes ne vous viendront plus à la pensée, comme l'a dit Ésaïe. Il n'y a absolument aucune raison valable pour laquelle être stressé. Pourtant, il y a de nombreux chrétiens qui vous diront que vous condamnez les gens en parlant ainsi. Je ne condamne personne, je dis simplement que Jésus a pourvu à bien plus pour nous que ce que la plupart d'entre nous nous approprions. J'ai un peu dévié, je suis parti sur un autre sujet, ce ne sont pas les versets sur lesquels je voulais m'attarder, donc je vais un peu accélérer la cadence. J'ai une série entière intitulée « Maîtrisez vos émotions ». J'en ai une autre basée sur les chapitres 16, 17 et 18 de l'épître de Jean intitulée « Le kit de survie du chrétien ». Je ne suis plus très sûr, mais il me semble qu'il y a 18 ou une vingtaine d'enseignements d'une heure chacun dans cette série-là qui aborde ce sujet en particulier. Je vais devoir accélérer un peu maintenant. Au verset 2 et 3, il est écrit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Rappelez-vous qu'au verset 1, il venait de dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et juste après, au verset 2 et 3, je crois que la raison pour laquelle il parle du ciel est pour montrer que même si le pire devait arriver, on partirait simplement auprès de lui. Je crois que Dieu a pourvu à la guérison, la prospérité, la joie, la paix. Je crois que l'on peut appliquer le verset qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. » Jésus a commencé en disant que votre cœur ne se trouble pas. Puis nous lisons à la fin de ce même enseignement dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde. » C'était un euphémisme si l'on considère que dans les 30 minutes qui allaient suivre cette déclaration, Jésus allait être arrêté. Il allait paraître devant Pilate, puis devant Hérode, et que tous ses disciples allaient l'abandonner et s'enfuir. À trois reprises, Pierre a nié qu'il le connaissait. Il aurait pu dire « Dans les 30 minutes qui viennent, vous allez avoir des tribulations. » Mais il a ajouté « Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il a donc commencé en disant « Que votre cœur ne se trouble pas. » Et il a terminé en disant « Prenez courage, quoi qu'il arrive. » Vraiment, nous avons de quoi prendre courage. Nous pouvons être victorieux, nous pouvons avoir la joie et la paix, peu importe ce qu'il se passe dans nos vies. Et je sais que ce que je suis en train de dire n'est pas populaire. Beaucoup de personnes pensent que je place la barre trop haute et que cela fait que les gens se sentent coupables. Mais je ne condamne personne, je vous dis simplement que Jésus a pourvu à tout pour vous, que sa provision est infiniment supérieure à vos besoins. Il n'y a aucune raison d'être stressé par quoi que ce soit. Si nous sommes victorieux dans cette vie, que nous obtenons la guérison, la délivrance, la prospérité, c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, nous entrons dans l'éternité et c'est la raison pour laquelle il en a parlé en disant de ne pas être stressé, en disant que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu. Voilà pourquoi il a parlé du ciel ici. Dans le pire des cas, si le pire devait arriver, vous partiriez rejoindre le Seigneur. Et tout irait bien. Nous sommes nombreux à avoir chanté ce chant en grandissant. Quand nous arriverons tous au ciel, quel jour merveilleux ce sera. Les gens parlent des joies du ciel, puis le médecin leur annonce qu'ils vont y être plus tôt que prévu, et ils se mettent à pleurer et à dire que c'est un malheur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il vous est possible d'avoir la même attitude que celle de l'apôtre Paul. Nous pouvons adopter la même perspective. Il a dit dans Philippiens chapitre 1, « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. » Vous pouvez en arriver au point de ne plus craindre la mort. Hébreux chapitre 2, verset 15 dit que Jésus est venu pour libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Lorsque vous parvenez à avoir la même attitude que celle de l'apôtre Paul, selon laquelle Christ est votre vie et mourir représente un gain, vous n'êtes plus sous l'esclavage de la peur. 2 Corinthiens chapitre 5 dit que si cette habitation terrestre, ce tabernacle est détruit, nous avons un autre tabernacle, un autre corps qui nous est réservé dans le ciel. Lorsque vous recevez ces révélations, vous ne craignez plus la mort, cette éventualité ne vous stresse plus. Bien entendu, vous n'aspirez pas à partir parce que vous avez un but. Vous désirez accomplir la volonté de Dieu, mais si ça devait vous arriver, ça ne serait pas un problème. Les gens sont littéralement esclaves de la peur de la mort, alors que nous ne devrions pas craindre la mort. J'ai un but, j'ai un objectif, j'ai un travail que Dieu m'a confié, et je ne suis donc pas enthousiaste à l'idée de partir prématurément. Je veux courir la course, franchir la ligne d'arrivée et accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais vous savez, je ne crains pas la mort. J'ai plein de raisons d'être impatient d'aller rejoindre le Seigneur. Plus je vieillis, plus j'ai d'amis et de membres de ma famille qui passent dans l'éternité, et vraiment, être au paradis sera merveilleux. Je suis impatient d'y être. Je n'en ai pas peur. Puis, après avoir parlé ainsi, il poursuit en disant « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Il s'agit de celui que nous appelons Thomas le sceptique. » Dans Jean chapitre 20, nous lisons qu'après la résurrection, il n'était pas présent lorsque les autres disciples ont vu Jésus ressusciter des morts. C'est pourquoi il doutait que Jésus soit réellement revenu à la vie. Il a dit « À moins de pouvoir voir, de pouvoir toucher, à moins de pouvoir mettre mon doigt dans les marques des clous et à moins de pouvoir mettre ma main dans son côté, je ne croirai pas. » C'est pour cette raison qu'on l'appelle souvent Thomas le sceptique. Et lorsque Jésus a dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin », Thomas lui a dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Réfléchissons un instant. Jésus vient de dire « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas se tourne et dit « Non, nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Puisque nous ne savons pas où tu vas. Jésus vient d'affirmer « Vous savez où je vais ?» Et Thomas lui répond « Non, je ne sais pas. » Vous savez, une chose sage à faire lorsque Dieu dit quelque chose est d'au moins garder le silence. Même si vous ne voyez pas ce qu'il veut dire, si vous ne le comprenez pas, il est sage de ne pas exprimer tous vos doutes. Mais Thomas s'est lâché et a dit « Non, Seigneur, tu te trompes. Nous ne savons pas où tu vas. » Nous pouvons tirer de nombreuses leçons de cette réponse. Nous lisons dans 1 Pierre 2:24 que par ses blessures, vous avez été guéris. Pourtant, il y a des chrétiens qui disent « Non, je ne suis pas guéri ». La Bible dit que vous êtes guéri, mais vous répondez « Non, je ne le suis pas ». La Bible dit que vous devriez être prospère, que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Mais les gens disent « Oh non, ce n'est pas vrai », mais c'est la vérité. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Dans Jean, Jésus explique par la suite ce qu'il veut dire à Thomas. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que lorsque Dieu dit quelque chose, vous devriez répondre « Père, je ne comprends pas, aide-moi à comprendre ». Tu as dit que par tes blessures, j'ai été guéri, mais je ne me sens pas guéri. Et le médecin dit que je suis malade. J'ai entre mes mains mon bilan médical et il n'est pas bon. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà une bien meilleure façon de réagir que de dire, « Eh bien, Seigneur, ta parole dit que je suis guéri, mais je ne le suis pas et je peux le prouver parce que j'ai là le rapport du docteur. » Vous feriez mieux de ne pas contredire Dieu. Thomas, lui, a eu l'audace de dire, « Seigneur, tu te trompes. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Puis Jésus lui dit, au verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ils connaissaient Jésus. Ils ne le connaissaient pas comme ils auraient dû le connaître, et je vais parler de cela en plus de détails. Jésus va en parler dans les versets qui suivent. Ils le connaissaient, mais pas aussi profondément qu'ils auraient pu. Le fait qu'ils disent « Nous ne savons pas où tu vas, nous n'en connaissons pas le chemin », cela révèle qu'ils connaissaient Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Ils n'avaient pas une pleine révélation de qui était Jésus et de ce qu'il possédait. Et c'était précisément là le problème. Nous devons en arriver au point où nous croyons ce que Dieu dit. Vous êtes toujours en haut et jamais en bas. Vous êtes la tête et non la queue. Vos ennemis sortiront contre vous par un seul chemin, et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant vous. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Les promesses se succèdent les unes après les autres, et nous devons y croire. Nous pouvons regarder ce que dit Jésus et examiner nos circonstances, nous pouvons comparer les deux, et en conclure qu'il n'y a pas de ressemblance ou d'alignement. Mais nous ne devrions pas contredire Dieu et dire « Seigneur, tu te trompes ». Pour vous donner un exemple concret, prenons l'exemple de la crise du coronavirus. Il existe des versets qui s'appliquent à cette situation. « Tu ne redouteras pas la peste qui rôde dans les ténèbres. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. » Nous avons des promesses selon lesquelles Dieu sera un rempart autour de nous, comme un bouclier, pour que rien ne puisse nous atteindre. Aucun fléau ne peut s'approcher de notre tente. Nous avons toutes ces promesses. Et il y a des multitudes de chrétiens qui voient ces promesses, mais ils se laissent ébranler par le journal télévisé, par la situation catastrophique d'un membre de leur entourage, par la moindre chose négative qu'ils entendent. Quelqu'un meurt, ils entendent parler d'une tragédie, et ils se laissent davantage influencer par cela que par les promesses de Dieu. Ils se mettent même à contredire ce que dit la parole. Nous devons avoir peur. Il faut faire très attention, etc. Alors que la Bible dit clairement qu'aucun fléau n'approchera de ma tente. Ce verset ne parle pas simplement de ma maison. Il s'agit aussi de mon corps. Mon corps est ma demeure, ma tente. C'est là que je vis et aucun fléau ne m'approchera. Je suis conscient qu'il y a de nombreuses personnes qui regardent ce programme et qui pensent que je suis bizarre. Eh bien, je le dis dans l'amour, mais je pense que c'est vous qui êtes bizarre. Vous avez toutes ces promesses, mais vous ne vous les appropriez pas. Et il y a des gens qui pensent, mais regardez toutes ces personnes qui sont mortes du virus. Il y a même des chrétiens qui sont morts en croyant ces choses. Je crois moi aussi qu'il y a des chrétiens qui sont morts de ce virus. Et il se peut qu'ils aient dit qu'ils plaçaient leur confiance en Dieu. Mais la Bible dit la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ils ont peut-être voulu bien faire, ils ont peut-être voulu placer leur foi en Dieu, mais lorsque vous agissez vraiment dans la foi, vous êtes vainqueur. Vous n'êtes pas vaincu. Et je suis conscient que lorsque je dis cela, beaucoup pensent que je condamne ceux qui tombent malades. Absolument pas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un combat et Satan nous attaque. De plus, il y a tellement de distractions autour de nous. Il y a tellement d'agitation parfois. C'est comme si vous étiez un soldat, vous êtes au front et l'on vous tire dessus. Êtes-vous un mauvais soldat pour autant? Bien sûr que non, vous avez effectué votre tâche, mais nous avons un ennemi. Il nous attaque et il peut arriver que nous soyons touchés. Donc je ne condamne personne. Mais j'affirme qu'il est possible de marcher dans la victoire. Jésus a dit que la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Pourtant, de nombreux chrétiens qui voient et entendent les promesses de Dieu, comme celle qui nous dit qu'aucun fléau n'approchera de ta tente, vivent constamment dans la peur. Ils sont tout autant terrifiés que leur voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Ils sont tout aussi malades que leur voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Ils sont tout aussi inquiets pour leurs finances que leur voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas normal. Jésus nous a fait ses promesses et nous ne devons pas dire « Non, tu te trompes ». Nous ne connaissons pas le chemin et nous ne pouvons pas savoir comment y arriver. Tu te trompes, il n'est pas possible de marcher dans la guérison divine. Nous ne pouvons pas proclamer avec David ce qu'il a confessé dans le Psaume 103, que Dieu guérit toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Non, c'est impossible. Je sais que ta parole le dit, mais pour nous, ça ne fonctionne pas. C'est faux et c'est mal d'agir ainsi. Vous ne verrez jamais la victoire dans cette vie tant que vous choisissez de croire les médias, ce que dit le médecin, ce que vous dictent vos circonstances, plutôt ce que Dieu dit et ce que vous lisez dans sa parole. Il vous faut arriver à un point où c'est la parole de Dieu qui vous domine. Romains chapitre 3, verset 4 dit « Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur ». Vous devez en arriver là. Pour en revenir à Thomas, il venait de dire à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Puis Jésus a répondu, « Si, vous le savez. » Et après que Thomas ait exprimé ses doutes, le Seigneur a déclaré, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il y a tellement à dire à ce sujet, mais je ne veux pas m'écarter du thème d'aujourd'hui. Au verset 7, Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus venait de dire, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui a répondu, « Non, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Donc Jésus explique en disant, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. » Puis c'est au tour de Philippe de prendre la parole au verset 8 et il dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Prenez le temps de réfléchir à cette déclaration. Voici le point sur lequel je voudrais me concentrer. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit livret « Jésus vous suffit-il ?» Jésus venait de dire, « Si vous m'avez vu, vous avez aussi vu le Père. Si vous me connaissez, alors vous connaissez aussi le Père. » Et Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Si on prend le temps d'y penser, on comprend que Philippe est en train de dire, « Jésus, tu ne nous suffis pas, tu ne me satisfais pas. Mais si je pouvais voir le Père, cela me suffirait. » C'est une déclaration stupéfiante. Si Jésus ne vous suffit pas, qui ou qu'est-ce qui pourra le faire ? C'est triste à dire, mais je m'adresse en ce moment même à des personnes qui ont demandé à Jésus de leur pardonner leurs péchés. Vous croyez que vous êtes né de nouveau, vous croyez que si vous veniez à mourir, vous partiriez rejoindre le Seigneur. Mais si vous êtes honnête, Jésus ne vous satisfait pas. Et ce n'est pas parce que Jésus n'est pas capable de vous satisfaire, c'est parce que vous ne reconnaissez pas ce que vous avez reçu. C'est de cela dont je vais parler. Sachez que nous mettons ce petit livret à votre disposition et nous aimerions vous offrir la version digitale en cadeau. Cette étude est vraiment puissante. Elle est très courte, mais également très puissante et je vous assure qu'elle vous bénira. Laissez-moi vous lire ce que signifie le mot « suffire » ou « satisfaire ». Voici comment le dictionnaire le définit. Répondre aux attentes, aux besoins ou aux désirs de quelqu'un. Jésus a-t-il répondu à vos attentes, à vos besoins ou à vos désirs? La suite parle de satisfaire un désir ou un besoin. Est-ce que Jésus vous a satisfait ou comblé dans tous les domaines? Puis il est question de fournir à quelqu'un des informations ou des preuves suffisantes pour qu'il soit convaincu de quelque chose. Ce que Jésus a dit est-il suffisant? Ou bien faut-il que le médecin le confirme? Faut-il que votre banquier le confirme? Que votre avocat le confirme? Je sais bien que je soulève beaucoup de questions et je suis presque à court de temps aujourd'hui. Il faudra que je reprenne cela dans l'émission de demain. Mais je vous encourage vivement à vous saisir de cet enseignement. Nous vous faisons cadeau de la version digitale de ce livret. Il est gratuit. Vous pouvez nous écrire pour le recevoir. Et je suis certain que cela remettra en question certaines choses et vous interpellera. J'ai de très, très bonnes choses à dire sur le sujet, mais je n'ai plus le temps aujourd'hui. Je ne fais que commencer et je vous encourage à regarder notre émission demain. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet pour visionner nos enseignements. Il faut vraiment que vous saisissiez ces vérités. Jésus répond-il à vos attentes? A-t-il pourvu à vos besoins? Jésus vous suffit-il? Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations sur la manière dont vous pouvez vous procurer cet enseignement. Je vous assure que vous serez bénis. bénie, écrivez-nous ou appelez-nous et rejoignez-nous demain pour la suite de notre série « Jésus vous suffit-il ». Merci d'avoir suivi cet épisode de La Vérité de l'Évangile du ministère d'Andrew Womack, réalisé en collaboration avec Phare FM. Retrouvez-nous sur www.awmi.fr pour découvrir nos séries d'enseignements ou pour nous contacter. À une prochaine fois pour grandir ensemble dans la connaissance de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu.
Et Andrew Womack revient à 6h15 sur Phare FM dans la nuit Autrement. C'est la radio Autrement qui vous accompagne. Notre programme se poursuit. Ronan Keating, When You Say Nothing at All, un peu de romantisme. Et puis tout à l'heure, présentiel, un moment avec Jésus. Le thème de ce samedi, le don ultime, Jésus pour le monde. Merci de rester avec Phare FM. À tout à l'heure.
It's amazing how you speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Bonjour mon ami. Mon père a offert le plus grand don en me donnant au monde. Comme l'a dit mon disciple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La générosité commence par le don de soi et j'ai incarné cet amour en offrant ma vie pour vous. C'est en suivant cet exemple que tu découvriras la puissance d'un cœur prêt à donner de lui-même. Embrasse cet appel à aimer et à donner avec sincérité, ton ami.
Seigneur Jésus, inspire-moi à donner de moi-même avec amour et sincérité, comme tu l'as fait pour nous. Aide-moi à suivre ton exemple de générosité et d'amour inconditionnel. Que mon cœur soit ouvert à ceux qui m'entourent, prêts à partager et à servir. Apprends-moi, Jésus, à vivre chaque jour avec un esprit généreux et bienveillant. Amen.
Retrouvez Présentiel, un moment avec Jésus, en podcast sur pharefm.com/replay et sur votre plateforme d'écoute favorite. Pharefm, l'émotion partagée.
T'as beau te lever le matin, penser que tout ne sert à rien, ne plus pouvoir cacher ton chagrin, alors qu'au fond ça fait du bien. Je me rappelle de tous nous deux, quand je ne pensais à plus rien, seulement à te plaire, être amoureux, alors qu'au fond c'était en vain. Alors t'y penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que t'y penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors t'y penses et tu dis ça, que tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et t'y penses, penses, t'y penses aussi, ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense, penses, j'y pense aussi, mon absence, t'y penses aussi. T'as beau embrasser d'autres femmes, t'auras plus jamais cette même flamme qui brûle en toi, en nous, en vous. Quand tu deviens fou dès qu'elle t'appelle mon chou, on se dit toujours que c'est pour la vie. À toujours faire le mec surpris, tu dis toujours qu'elle reviendra, que ses affaires seront toujours chez toi. Alors t'y penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que t'y penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors t'y penses, et tu dis ça, tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et t'y penses aussi, ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi, mon absence, ah t'y penses aussi. Waouh. Tu l'oublies, t'oublies ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle serait. Au beau moment passé, aux instants de regret. Alors t'y penses et tu grandis. Et t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi. Mon absence, t'y penses aussi. Et t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi. Mon absence.
Je sais l'eau verser sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on
Je fais de toi mon essentiel, Moire Emmanuel, sur la radio Autrement. Je fais de toi mon essentiel, Emmanuel Moire, sur Phare FM. J'espère que vous allez bien. Il est 4h10. Notre programme se poursuit en musique. On va entendre Rachael Lampa, High Hopes, Jack Isaac avec For No Reason, et tout de suite Vianney et Rosaline, Where Do I Go. Vous écoutez la radio Autrement. J'espère que vous allez bien. Bonne nuit à l'écoute de Phare FM et bon courage pour le travail.
Sorry, what about you? Do you wish you were with me right now? Do you miss me like I do? You had to run away and I had to heal. No good, I need you here, I need you tonight. Oh, cause when you hold me, you're taking me home. You show me the place I belong. But now I'm falling, I'm losing control. Scared to move on my own. Where do I go now?
Where do I go?
Where do I go now?
Where do I go? Brown eyes, no chance. They say goodbye and I let you go. No fun, I hate to dance. I'd rather play Billy Joel. And it feels unfair. Who is to blame? Oh, when we're an ocean apart. But when you hold.
was always a liar, and I made out I don't want you. Truth is, really needed you to stay. You would yell down the hallway that you're all done with these head games, but I don't mean to hurt you, can't lose you again. Perfect, pure as gold, priceless is how I see you, how I see you. I love you for no reason, and I always will, and I will be yours forever. Oh, I promise this, promise this. Never really told you, didn't know how to show you just how much I loved you through it all. Though I find these words now, the wounds speak louder. Pray it's not too late, can we start again? Feel so worthless, but you're my gold, priceless. Oh, and I need you, darling, I need you. Oh, I love you for no reason, and I always will. Said I didn't love you. Truth is, really needed you to stay.
Écoutez, respirez, vivez, Phare FM.
This is the road I would have chosen. Driving with headlights that can't cut through the rain. But I'm headed someplace where when all this heavy tries to pull me low, when I'm looking for heaven here below. Against the darkness, a voice still inside me is telling me not to quit. Whoa. I'm headed someplace where the dawn is broken, even though I don't know when that day is. But when all this heavy tries to pull me low, when I'm looking for help.
Tomorrow I gotta